Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Cette semaine a marqué le premier mois de l'invasion, de l'agression russe en Ukraine. On va faire le point avec Richard Blanchette, major général à la retraite des Forces armées canadiennes et expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean. Monsieur Blanchette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Si vous aviez donné à donner une note à la performance de l'armée russe en Ukraine après un mois de campagne, ce serait quelle note?
Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé des lettres ou des pourcentages, là, mais ça ressemble pas mal à un D là, pour ce dont je me souviens comme système de notation. C'est pas très fort. Je pense que c'est à votre antenne que j'avais discuté la question de l'évaluation opérationnelle de ce qu'ils font. Opérationnelle là, dans le sens entre le niveau stratégique et le niveau tactique. Et c'est en parlant de ce niveau-là qu'on parle d'un plan de campagne, qu'est-ce qu'on veut réussir à atteindre. Et ce qui était, semble-t-il, le plan de campagne, c'était de déloger carrément le gouvernement du président Zelensky en mettant une pression énorme sur la capitale. Et ce déploiement-là a eu lieu, mais en faisant fi d'un principe de guerre essentiel qui est la concentration de l'effort pour réussir à atteindre votre centre de gravité. Là, je vous parle en termes d'art opérationnel. Et ça, ça a été carrément un échec de leur part. Parce qu'ils ont avancé sur des fronts multiples, ils ont essayé de faire tout et ce faisant, ils ont diminué leurs chances de succès au niveau de l'ensemble de la campagne.
OK, donc un D. Écoutez, ça rejoint à peu près tout ce que je lis d'analystes ici en Europe. Puis je vais vous faire part d'un papier que j'ai lu cette semaine dans un magazine américain. Là. Le journaliste qui écrit ça est en Ukraine, c'est un ancien Marine. Et il raconte qu'il tombe dans un hôtel, il tombe sur un Américain qui lui aussi est un ancien Marine, qui est venu combattre, je ne sais pas si le gars est d'origine ukrainienne, là, mais qui est venu combattre en Ukraine contre les Russes. Et il explique à quel point les soldats russes manquent d'initiative. Les soldats russes font des erreurs et répètent des erreurs, ont des vieilles méthodes de combat. Et à quel point, je dis pas que c'est facile pour les Ukrainiens, loin de là, mais à quel point ils sont surpris que ce soit pas plus difficile pour eux quand ils les affrontent?
Je ne suis pas surpris d'entendre ce que vous dites là, et je pourrais le relier assez facilement au ministre de la Défense, Shoigu. Je sais pas si vos auditeurs en ont entendu parler, mais il est manquant à l'heure actuelle. Hein. Il y a des différentes évaluations là, de temps depuis quand on ne l'a pas vu. Et lui, il était responsable d'une très grande réforme au sein de l'armée. En fait, une réforme qui avait fait en sorte que l'armée était de mieux en mieux vue par le président Poutine. Et c'est effectivement à Shoigu qu'a été confiée la responsabilité des opérations en Syrie et également ce qui avait été fait pour la première guerre de Tchétchénie. Et ça s'était quand même bien passé. Il a pris du galon, si vous voulez, et il s'est effectivement retrouvé comme ministre de la Défense. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est qu'il a fait des réformes qui ont un peu imité la façon que nous, du côté occidental, organisons nos forces quand on veut être déployé. L'ancienne doctrine soviétique était beaucoup plus axée sur l'effet de choc des chars avec des fusils motorisés qui passaient par la suite un système d'échelons. Alors que maintenant, ils ont organisé, et là, il y a tout une difficulté d'acronyme, là, quel acronyme on utilise pour décrire ces organisations-là, mais maintenant, les Russes utilisent des BTG, et ces groupements tactiques de bataillons, si vous voulez, là, demandent un leadership beaucoup plus pointu, une capacité de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de souplesse, et il semblerait que l'entraînement des soldats n'ait pas suivi ce changement organisationnel. Là. C'est un peu détaillé là, comme situation pour vous expliquer, mais c'est très, très important et ça explique probablement ce dont vous venez de parler avec l'histoire là, du manque de leadership sur le terrain, puis une asymétrie tout à fait totale dans les une comparaison du moral des troupes russes. Le moral des troupes ukrainiennes.
Richard Blanchette, il y a beaucoup de prises de conscience un peu partout là, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et il y a des prises de conscience au Canada. Il y a un débat qui va occuper la scène politique, c'est les dépenses militaires du Canada. Présentement, on est à 1,4% du PIB. On est loin du 2% qui est demandé par les Américains, par l'OTAN. Ça demanderait combien d'investissements pour atteindre le 2% du PIB au Canada?
Je ne saurais vous donner le chiffre exact, mais c'est monimental. Passer de 1,4 à 2%, compte tenu de l'importance de notre PIB, ce serait vraiment difficile pour le gouvernement de réussir à atteindre cet objectif. Et ayant servi au QG de l'OTAN, là, cette discussion-là, à savoir est-ce qu'on est au 2%, est-ce qu'on n'y est pas, c'est quelque chose que j'ai entendu vraiment très souvent. Ça a été discuté et ce qui compte le plus, c'est davantage la capacité de déployer des troupes et de participer aux opérations. Donc, la question de déployabilité, si c'est un mot français, est très, très importante à évaluer et le Canada, à ce niveau-là, a une bonne réputation. Je ne vous dis pas que les Américains ne veulent pas qu'on dépense davantage, mais les Américains et les autres alliés veulent vraiment que nous continuions à participer. D'un point de vue militaire, mes collègues en discutent souvent avec moi et qui sont toujours en service. Évidemment qu'on a vraiment besoin de penser à une meilleure défense antiaérienne pour le Canada. On a besoin d'une bien meilleure force de défense anti-char. Et maintenant que nous avons des troupes de déployer et que nous allons probablement continuer à renforcer le flanc oriental de l'OTAN, nous avons tout avantage, justement, à utiliser cette occasion, cette espèce de réveil, d'une lucidité nouvelle, maintenant qu'on se rend compte que la compétition des grandes puissances va faire en sorte que nous risquons vraiment d'être impliqués dans des combats à haute intensité plutôt que des questions ou des manœuvres de contre-insurrection comme dans le passé.
Ne serait-ce que d'avoir des stocks militaires de munitions, d'armement en quantité suffisante pour pouvoir en donner à nos alliés comme les Ukrainiens. Là, semble-t-il que nos stocks militaires sont à sec parce qu'on a tout donné ce qu'on avait.
Disons que les armes qui étaient requises, des armes anti-char surtout à cause de la capacité blindée des Russes, effectivement, on a probablement gratter les fonds de tiroir, si vous me passez l'expression, et ça fait quand même en sorte que nous sommes toujours capables de nous défendre. Là, c'est pas une problématique de ce côté-là, mais on avait déjà des plans. Hein. Vous savez que la politique de défense là, qui a été énoncée en 2017, avait quand même mis un plan de rééquipement des forces canadiennes qui était relativement important. Ce qui était peut-être un peu moins couvert, c'était toute la question de la défense de l'Amérique du Nord comme telle, c'est-à-dire la modernisation de NORAD. Ça, c'est quelque chose qui va coûter très cher et j'ai bien l'impression que nous n'aurons pas le choix que d'augmenter les deniers publics dans cette direction-là.
Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quel regard vous portez sur, disons, les longueurs, pour être très poli, à renouveler notre flotte d'avions de chasse? Les CF-18, on le sait, l'ont passé, quasiment fini leur vie utile. Ça fait des années que le gouvernement fédéral veut remplacer cette flotte-là. Ça branle dans le manche, sans mauvais jeu de mots. Avec ce qui se passe en Ukraine, ça fait un peu pic-pic.
Il faut absolument que les décisions politiques se prennent rapidement. Et encore une fois, la situation en Ukraine va faire en sorte que l'attention des politiciens va être portée sur cette réalité que, comme membre du G7, comme membre à part entière et pays fondateur de l'OTAN, que nous devons être bien représentés. Et cet effort financier-là doit être fait, tout comme il doit être fait du côté maritime, bien sûr, avec les navires de combat de surface qui sont requis eux aussi.
Merci beaucoup, M. Blanchet. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Vous en prie, M. Lagacé.
À la prochaine. C'était Richard Blanchet, major général à la retraite et expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Je veux vous parler d'une affaire troublante. Il s'agit d'un procès secret, un procès secret où le nom de l'accusé est caché. Même chose pour le nom du juge, même chose pour le nom des avocats de la défense, même chose pour le nom des avocats qui représentaient l'État. Et même dans ce procès secret, comme je vous disais, on ne sait pas qui est l'accusé. On ne sait même pas, tenez-vous bien, où a eu lieu le procès. Dans quelle ville? On ne sait pas non plus. On ne sait même pas si ça s'est tenu dans un palais de justice. Il y a des témoins qui auraient même été interrogés hors du lieu où s'est tenu le procès. Et on en a tout simplement fait le compte-rendu dans le procès. Et sans oublier que le procès n'a pas été consigné dans le registre normal des procès. On ne peut même pas faire de recherche pour savoir ce qui s'est passé dans le procès et il n'y a pas de procès verbal non plus. Maintenant, je vous pose une question. Dans quel pays ça s'est passé, ce procès fantôme? Un indice pour commencer. Au Canada, là, les procès sont publics. C'est la norme. Donc, pensez-y. Pensons à voix haute. Là, où est-ce qu'un tel procès a pu se passer? En Russie, en Chine, à Cuba, à la prison américaine pour terroristes de Guantanamo, qui est sur l'île de Cuba, et qui est aussi la honte du droit américain. Dans quel type de république de bananes, dans quel type de dictature est-ce qu'un procès comme ça peut se dérouler en secret à l'abri total du public, instruit par des avocats, par des juges inconnus, dans lequel un accusé anonyme est défendu par des avocats tout aussi anonymes? Où c'est possible, ça? En Corée du Nord? En Iran? Ben non, mesdames et messieurs, ça s'est passé au Québec tout récemment. Et c'est la presse qui révélait cette histoire-là ce matin. C'est digne d'une dictature. Écoutez, même en Chine, qui n'est pas reconnue exactement là, pour la transparence de son système de justice, même la Chine, qui a une caricature de système de justice, généralement, on sait qui est accusé de quoi. C'était le cas des deux Michael, les diplomates canadiens qui avaient été arrêtés sous de faux prétextes. On savait qui était accusé. On savait, il était accusé de quoi? On savait que c'était une joke. On savait que tout ça était une fabrication, mais on savait qui était accusé de quoi. Mais il y a un juge au Québec, j'aimerais bien ça vous donner le nom de cette personne-là, mais le nom de cette personne-là est également secret. Bien, il y a un juge au Québec qui a décidé que c'était une bonne idée de faire un procès dont l'opacité est totale. C'est un procès qu'on imagine très bien dans une dictature. Un procès secret comme ça, c'est un « wet dream ». Totalitaire. Ben, il y a des avocats de la Couronne, il y a des avocats de la Défense qui ont aussi trouvé qu'en 2021, je dis 2021 au hasard parce que je présume, on ne le sait pas si ça s'est passé en 2021, que c'était une bonne idée. Et là, aujourd'hui, le DPCP, qui est l'organisme des procureurs de la Couronne au Québec, a réagi aujourd'hui. Je vais citer la porte-parole du DPCP. Le DPCP ne peut confirmer ou infirmer avoir agi comme poursuivant dans cette affaire. Je ne sais pas si vous avez lu le roman 1984 de George Orwell, mais quand on parle d'un futur totalitaire, d'un État complètement cinglé, on parle souvent du roman 1984. Cette phrase-là, le DPCP ne peut confirmer ou infirmer avoir agi comme poursuivant dans cette affaire, ça pourrait figurer dans 1984. Ça pourrait figurer dans une dystopie de science-fiction où il n'y a plus d'état de droit. Écoutez, au Québec, en 2022, le DPCP, dans une démocratie, ne peut pas confirmer avoir poursuivi quelqu'un, accusé quelqu'un, monter un dossier criminel contre quelqu'un, c'est complètement cinglé. Savez-vous comment le poteau rose a été découvert? C'est que l'inconnu accusé a été trouvé coupable. Et il a fait appel. Et là, ça a été reçu par la cour d'appel, par trois juges de la cour d'appel, qui, eux, ont rendu une décision qui est publique. Et ils ont dénoncé comment ça s'est passé. C'est comme ça qu'on avait su qu'il y avait eu lieu ici un procès encore plus opaque que ce qui se passe à Guantanamo. Puis quand je parle de Guantanamo, dans le monde du droit, c'est vu comme une tache dans le dossier de la démocratie américaine. Parce que la preuve qui est présentée est souvent cachée de l'équipe de défense. C'est pas vu comme quelque chose de démocratique, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à Guantanamo. Et c'est gênant. C'est gênant, pas à peu près, sur un moyen temps pour la démocratie américaine. Mais on peut savoir qui est accusé de quoi, encore une fois. Et là, au Québec, on sait pas ce que cette personne-là a subi comme procès. On sait pas où ça s'est passé. Donc, c'est vraiment absurde. Il y a un juge québécois qui a permis un procès qui est encore plus secret qu'à Guantanamo. Là, écoutez, c'est qui le juge inculte ou la juge inculte, parce qu'on ne le sait pas, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, qui a permis ça. Faut le savoir. Ça mérite au minimum une enquête du Conseil de la magistrature. Qui sont les avocats qui ont accepté de participer à cette pièce de théâtre-là? Faut le savoir. C'est qui les témoins qui ont livré des versions à ce tribunal-là? Faut le savoir. Et où le procès verbal de ce procès fantôme? Faut le savoir aussi. Écoutez, qu'il y a des parties de procès qui se déroulent à huis clos, par exemple pour pas contaminer un jury, c'est normal, c'est juste, c'est pas inhabituel. Puis de toute façon, après le procès, ce qui a été frappé par un interdit de publication finit par être rendu public. Quand ils prennent des décisions, les juges vont souvent invoquer un principe. C'est celui de la confiance du public dans le système de justice. Les juges vont dire, ah, vous savez, on ne saurait libérer un accusé parce que ça pourrait miner la confiance du public dans le système de justice. De la même façon, on va libérer quelqu'un qui a été accusé, on va prononcer un non-lieu parce que la police a mal fait sa job. Et le juge, qu'est-ce qu'il va dire? La juge, qu'est-ce qu'elle va dire? Il faut préserver la confiance du public dans le système de justice. Et là, j'aimerais ça que mes paroles se rendent à la personne, homme ou femme, qui a présidé à ce procès-là, qui a accepté l'opacité totale d'un procès criminel au Québec en 2021, à peu près, on ne sait pas trop. Ce que vous avez permis, c'est de l'engrais pour nourrir le scepticisme face au système de justice. Un procès secret qui est mené par des gens anonymes avec un accusé inconnu dont il n'existe aucun procès verbal qu'on puisse consulter, c'est du stuff de République de bananes. Staline serait fier de vous, monsieur ou madame la juge. Puis quand je dis Staline, je ne prends pas des références historiques à la légère dans ma pratique journalistique. Mais ça, c'est du stuff de République de bananes. C'est du stuff d'État totalitaire. Ça fait 2 ans que j'écris et je commente sur les conspirationnistes. Je prends un petit détour, là, mais pour les conspirationnistes, le secret, c'est au cœur de leur lubie, c'est au cœur de leurs imaginations beaucoup trop fertiles. Ils s'imaginent, justement, qu'il y a des choses qui se passent en secret. Ils s'imaginent qu'il y a des gens qui dirigent le monde comme des marionnettistes en secret. Ils s'imaginent, par exemple, que Hillary Clinton a été arrêtée, jugée, exécutée. Ils pensent ça pour vrai, par un tribunal secret. Qu'est-ce qu'on leur dit à ce monde-là aujourd'hui? Monsieur ou Madame la juge, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous diriez à l'homme raisonnable? Ça, c'est un autre principe en droit. L'homme raisonnable. L'homme raisonnable penserait que telle affaire. L'homme raisonnable qui ouvre sa presse un matin, il pense quoi de la justice? Le genre de procès secret-là, c'est exactement le genre de délire qui tient les conspirationnistes réveillés la nuit. Moi, je ne suis pas conspirationniste. Puis quand j'ai vu ça un matin, j'étais dans tous mes états. Écoutez, c'est comme ça qu'on scrappe la confiance du monde envers les institutions. Je ne sais pas qui a été accusé de quoi, mais on avait le droit de savoir c'était quoi. Écoutez, je ne sais pas qui c'est quoi, mais les personnes qui savent ce qui s'est passé dans cette affaire-là feraient œuvre utile en appelant un ou une journaliste pour raconter ce qui s'est passé. Et le média qui va apprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui va apprendre les détails, va avoir une grosse responsabilité. Il y a peut-être des interdits de publication, mais dans ce cas-là, ça vaut la peine de casser un interdit de publication, de le braver, parce que le monde a le droit de savoir. Si vous êtes parent d'adolescents, je sais que ce sont des questions qui sont assez confrontantes quand nos jeunes, quand on peut soupçonner là, que les jeunes commencent à consommer toutes sortes de choses. Marie-Ève Morin est médecin de famille en santé mentale, cofondatrice du projet Caméléon. Salut Marie-Ève.
Oui, salut Patrick.
OK, tu donnes des conférences dans les cégeps, dans les écoles. Pour les plus vieux d'entre nous, explique-nous d'abord qu'est-ce qu'on consommait. Rappelle-nous ce qu'on consommait dans les années 70, puis qu'est-ce qui a changé depuis une vingtaine d'années?
Bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre autres, il y a l'apparition des fameuses drogues de synthèse. Moi, quand j'ai commencé à donner des conférences dans les écoles il y a une quinzaine d'années, on me demandait de parler du speed, de la méthamphétamine, de la MDMA, de l'ecstasy. Ça, c'est des drogues qui n'étaient pas nécessairement présentes là il y a 50 ans. La méthamphétamine, ça fait longtemps que ça existe, mais le speed n'était pas aussi répandu peut-être que peut l'être aujourd'hui. Il y avait aussi le hashish, le cannabis, ça fait longtemps que ça existe, le champignon, le LSD. Mais aujourd'hui, il y a des tendances qu'on observe chez les jeunes du secondaire, entre autres, qui sont assez préoccupantes. Par exemple, prenons la fameuse, c'est peut-être pas une drogue qui gèle, là, mais les vapoteuses, la cigarette électronique, c'est hallucinant. En 6 ans, la proportion de fumeurs de cigarettes électroniques a quintuplé au secondaire. C'est-à-dire qu'en 2013, on avait 4% des élèves du secondaire qui vapotaient. Eux autres qui appellent ça vaper, on dit ça une vape. Et maintenant, en 2019, en fait, on était à 21%. Et ça, c'est avant la pandémie. Et si on prend juste les 4e, 5e secondaire, on en a le tiers qui vape. C'est pas rien, ça. Donc, c'est de la nicotine qui cause une dépendance à long terme.
Marie-Ève, j'ai toujours vu, puis corrige-moi si je me trompe, là, j'ai toujours vu la vapoteuse comme étant un moindre mal si on la compare à la cigarette. Est-ce que je suis dans le champ?
En fait, on ne connaît pas les effets à long terme. On ne peut pas dire ce que ça va donner dans 20 ans. Ça fait pas 20 ans que c'est là. Ça a été légalisé au Canada en 2018. Et il y a quand même une dépendance à la nicotine qui s'installe. Et ces jeunes-là ont 4-5 fois plus de risques de switcher, excusez le terme, à la vraie cigarette un jour.
Puis,
c'est une des tendances.
Marie-Ève, le bon vieux pot, là, est-ce que c'est populaire chez les jeunes?
C'est toujours aussi populaire que ça l'a été, mais il y a une nouvelle tendance. Ben, c'est pas nouveau ça non plus. On appelle ça de la wax. Donc la wax, c'est de la résine de cannabis. C'est fabriqué là, entre autres avec des bonbonnes de butane, etc. Mais maintenant, c'est beaucoup plus fancy parce que maintenant, on vend des wax pens. Donc, c'est un petit crayon en métal et il y a toutes sortes de saveurs intéressantes. Hein, ça peut être la cannelle, ça peut être aux Smarties et c'est de la résine de cannabis en haut de 90% de THC.
Mais ça se fume?
Et ça se vend oui, ça se fume. C'est un wax pen. Donc, ça, c'est comme une vape, c'est comme une vapoteuse, mais à wax. Puis ça aussi, ça commence à être assez populaire chez les jeunes. C'est assez préoccupant quand on pense au taux de THC qu'il y a là-dedans. Mon Dieu, ils vont développer des tolérances incroyables.
Puis c'est quoi le lean?
Le lean, c'est un sirop. Ça fait quand même quelques années là, que ça existe. Ça avait été popularisé il y a plusieurs années. Ça s'appelait le Purple Drink par des rappers américains. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est du sirop contre la toux là, qui contient du dextrométhorphan. Et on ajoute là-dedans de la codéine. Alors, ça donne un buzz quand les jeunes ils calent ça. Puis ça peut donner un buzz qui ressemble un peu à une narcose, un peu comme avec la morphine. Dans le fond, c'est de la codéine. Et ça peut durer 3-4 heures. Donc ça aussi, c'est une mode qui est un peu préoccupante, qui était peut-être pas aussi populaire il y a 15 ans qu'aujourd'hui.
Puis le Xanax, ça aussi, c'est populaire, semble-t-il. Pas juste un calmant pour les adultes.
Non, ben le Xanax, en fait, c'est un benzodiazépine comme le Valium, l'Ativan, le Rivotril. Il y en a plusieurs, mais le Xanax qui se retrouve en ce moment, c'est du Xanax de contrefait. Okay. Donc, c'est même pas le vrai médicament qui est supposé être là-dedans. Puis ça, c'est un dépresseur du système nerveux central. Donc, si les jeunes en prennent 3, 4, 5, ben il y a des dangers, surtout si c'est mélangé avec l'alcool, des dangers de dépression respiratoire et à long terme de dépendance aussi. Ça, le Xanax, excusez, ça a été popularisé aussi par des chanteurs. Il y a eu une petite recherche intéressante il y a pas longtemps. Ils ont démontré qu'ils ont trouvé 26 chansons de rap ou de hip-hop américain là, qui relataient les effets du Xanax dans leurs chansons dans les dernières années. Fait qu'ils font la promotion de ces drogues-là. Puis évidemment, quand on est jeune, on a des modèles, on les imite. Fait que je pense qu'il y a ce phénomène-là aussi. Mais on n'est pas pour arrêter les artistes d'être créatifs non plus.
Marie-Ève, penses-tu que les ados de nos jours en 2022 consomment plus que ceux de 2002 ou c'est toujours la même proportion qui consomment?
C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse à ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que la pandémie a eu un impact sur la consommation, là, pas juste chez les jeunes, chez tout le monde. Je pense, j'ai l'impression que ça a augmenté, mais j'ai pas de réponse avec des chiffres à cette question-là. Mais moi, ce que je trouve, en tout cas, moi, j'ai dans le mi-quarantaine, quand j'étais au secondaire, il me semble qu'il n'y avait pas de drogue de synthèse. Hein. Il n'y avait pas autant de choix. Puis ces drogues-là, en plus, coûtent pas cher. Donc, c'est ça qui est assez précoce. C'est pour ça que je vais dans les écoles pour expliquer aux jeunes qu'est-ce que c'est en réalité.
Marie-Ève, je rappelle que tu es médecin de famille, spécialisée en santé mentale, aussi dans toxicomanie. La meilleure façon pour les parents d'aborder le sujet, c'est-tu de fouiller dans les vêtements de nos enfants, dans leur sac d'école, de démoniser la drogue, ou c'est d'avoir une approche plus libérale?
Mais moi, je pense que c'est d'en parler tout simplement. Puis je veux dire, les jeunes en savent énormément. Ça veut pas dire que parce qu'ils savent c'est quoi de la wife qu'ils en fument. Hein? Fait que moi, je pense qu'ils sont très informés, les jeunes. Est-ce qu'ils sont informés de la bonne façon? Peut-être pas toujours. Est-ce qu'ils sont téméraires? Oui, hein, les ados, ça a toujours été téméraire. Mais je pense pas que d'éviter le sujet, c'est une bonne solution. C'est comme parler de vie sexuelle. Hein? Il faut en parler, même si ça peut créer des malaises parfois.
Mais OK, on en parle, mais est-ce qu'on fouille? Est-ce qu'on fait de la répression?
Moi, je ne crois pas à la répression dans peu importe l'âge de la personne qu'on cible. Je pense que la répression va empirer les affaires. Je pense que si on punit, si on y va en fouillant, on y va en s'introduisant dans la vie privée du jeune, qui a quand même une vie personnelle, je pense pas que ça va fonctionner nécessairement. Moi, la répression, je n'y crois pas. Je pense que l'éducation, l'information, la prévention a vraiment plus sa place que la répression, même avec les adolescents.
Vraiment, toujours intéressant de te parler, Marie-Ève. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Salut, bonne journée. C'était docteur Marie-Ève Morin, médecin de famille en santé mentale et cofondatrice du projet Caméléon. On va la réinviter au fil des semaines. Je pense que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de parents.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va parler de crabe. Aimez-vous le crabe, Catherine?
J'adore le crabe.
Je mangerais juste ça.
Ah, c'est bon.
Mon Dieu.
C'est presque en train de surpasser le homard.
Faudrait que tu vides tes réels pour manger juste ça.
Là, je vais faire un choix. Est-ce que je vais mettre de l'essence dans mon auto ou je vais manger du crabe? Ça va être un ou l'autre.
Mais on s'entend, c'est un produit de luxe. On mange pas ça tous les jours. Mais c'est la saison du crabe qui s'annonce. On va en parler avec notre ami Alain Pronkin. Vous l'entendez à cette antenne parler de religion, mais c'est aussi gérant d'une poissonnerie, la poissonnerie René Marchand
et
à Saint-Lambert.
C'est lui qui me vend mon crabe.
Ah oui, hein?
Oui, mes huîtres. Je vois souvent Alain.
Salut Alain.
Ça va bien, Patrick?
Oui.
Bonjour, Catherine.
Ben,
salut.
Tu dois être occupé de ce temps-ci avec l'arrivée de la saison du homard.
Ah, oh, homard.
Du homard, du crabe, excuse.
Oui, ben le crabe, le homard, vraiment. On est toujours très occupé, mais en plus dans la saison du crabe. Puis je veux juste signaler une petite affaire. Le crabe, c'est un produit qu'on consomme depuis juste 1970. Avant, c'était un produit qu'on prenait et on ensemençait les champs. Elle se souvient de ça quand, ben là, elle est décédée aujourd'hui, mais on prenait ça, on le coupait en petits morceaux, puis on ensemençait les champs dans les années 30, dans les années 40.
On en faisait de l'engrais.
De l'engrais. Et c'est juste à partir de 1970 qu'on s'est aperçu que c'était excellent à manger parce qu'on a dû regarder les Japonais et on a développé cette industrie-là qui est devenue vraiment une industrie majeure et même une industrie majeure, pas juste au Québec, mais dans l'entièreté du monde. Et c'est les pressions mondiales, parce qu'on se pensera à parler du prix de l'essence, qui font que les prix du crabe n'arrêtent pas de monter. Mais ça a doublé depuis 2017.
Alain, juste une parenthèse. Moi, j'avais un oncle qui est décédé aujourd'hui, qui était originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick. Et lui, tu sais, pré-1970, il m'avait déjà raconté que le homard, c'était un maître pauvre. Tu te cachais pour manger ça. Donc, c'est un peu la même chose avec le crabe.
Un peu, surtout que quand il y avait les marées, le homard venait, évidemment, on le ramassait sur la grève, on donnait ça aux prisonniers d'un prison au Nouveau-Brunswick, et même tu as eu des petites rébellions parce qu'ils n'en voulaient plus de homard.
Wow.
Ça s'appelle dans les années 1890-1900. C'est juste pour voir. Parce qu'on avait une richesse à cette époque-là en fruits de mer, puis c'était pas tellement exploité. Aujourd'hui, c'est le contraire. Okay. On en a encore beaucoup, mais est-ce qu'on va la surexploiter? Puis ça, c'est la grande question. Parce qu'avec ce qui se passe dans l'industrie du crabe, préparez-vous à le payer cher. D'après moi, ça va se vendre autour de 39,95 la livre pour le homard, ce qu'on appelle du 2 à du 3L. Parce qu'on peut en acheter du vivant qui va être un peu moins cher. On peut en acheter du 1L qui est le plus petit qui va être moins cher. Mais on s'attend à ça. C'est enflammé pour la raison. Y a deux principales raisons. La demande du marché américain qui est de plus en plus forte. Avant, notre crabe, disons, qui était vendu jusqu'en Virginie, ben à cette heure, il va se retrouver jusqu'en Miami, il va se retrouver en Georgie, il va se retrouver partout. Et surtout, la décision de M. Biden, qui est une décision que tout le monde va comprendre, il a cessé de faire de l'importation des fruits de mer en provenance de Russie. Le crabe des neiges de Russie représentait pour environ 900 millions d'achats aux États-Unis.
Donc, si je comprends bien, moins de crabes russes sur le marché, moins de crabes en général, les prix vont augmenter.
Vont augmenter parce qu'on va venir le chercher au Québec. Parce que le crabe des neiges, là, c'est l'Alaska, c'est la Russie et c'est le, on va dire, de Boston, là, mettons, de Boston jusqu'à Terre-Neuve. C'est précis-là. Et en Alaska, on a des problèmes d'approvisionnement. La ressource, l'eau peut-être réchauffée, je ne le sais pas, il y a moins de crabe des neiges. Et les quotas sont plus bas. Donc, tu as moins de crabe des neiges en partant en Alaska. Tu vas avoir l'interdiction du crabe russe. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une grosse pression ici, puis les prix devrait monter. Puis ça, c'est sans compter le prix de l'essence, puis le prix de ci, puis le prix de ça. Donc, on s'attend à 39. Écoute, ça a doublé en 5 ans. C'est pas plus compliqué que ça. Puis l'an dernier, déjà, on se demandait, puis je me posais la question, je disais, on peut pas tenir à 35-36 $ la livre, ça va casser tout ça. Ça a jamais cassé. Les prix sont restés stables. Puis là, on s'en va dans la nouvelle saison. Moi, je m'attends, ça va monter 39. Il y a des mauvaises langues qui disaient, ça va casser le 40. Je ne penserais pas. Mais déjà, à 39, ça va être cher. Mais on parle d'un crabe de haute qualité du Québec, frais et cuit. Là. On ne parle pas du petit crabe là, qu'on va vendre vivant. Là.
OK, Alain, il y a quelqu'un qui m'écrit de Rimouski, puis on sait que c'est une région où on peut pêcher le crabe, qui me dit, moi, j'en mange demain. Ça arrive quand, à Montréal?
Ça arrive mardi. Mardi, ça va arriver. Fait que Catherine, tu peux arriver mardi fin d'après-midi. On va en avoir parce que le crabe, la première semaine du crabe, c'est juste pour Rimouski. Fait que Rimouski a droit à son crabe et c'est toujours prévu comme ça à chaque année. Fait qu'à Rimouski, fait que si vous voulez absolument manger du crabe des neiges de haute qualité, allez à Rimouski. Puis en plus, Rimouski, c'est beau. vous allez là. Non, mais c'est vrai que c'est une belle ville, Rimouski.
Mais il me semble qu'on prévoit une tempête de neige dans l'est du Québec. Là, fait que...
C'est ce qui fait que c'est encore plus beau.
OK. Bon, mais merci beaucoup.
De faire du ski de fond là-bas, c'est une toute beauté. Puis rouler dans les routes enneigées, à suivre les lumières d'un camion, les petites lumières rouges, c'est admirable. Mais c'est vraiment là que ça se passe pour une semaine. Et après ça, le crabe arrive à Montréal. Et c'est mardi que c'est prévu. Ce qui est un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, c'est le 31 mars. Fait qu'on sauve 2-3 jours.
Merci Alain.
Et ça vaut la peine, il faut manger.
Merci Alain, bonne fin de semaine.
Merci, bonne journée.
J'ai hâte.
OK, c'était Alain Pronkin, gérant de la poissonnerie René Marchand à Saint-Lambert, la saison du crabe qui commence. Bon appétit à tous. C'est un produit de luxe quand même, quasiment 40 $ la livre.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.